23 août 1996, l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Le 23 août 1996, nous ne sommes quasiment plus au XXe siècle, vers 6h du matin, des centaines de gardes mobiles et de CRS venaient déloger quelques 300 sans-papiers réfugiés depuis le début de l'été dans l'église Saint-Bernard, dans le nord de Paris. Parmi eux, 10 grévistes de la faim en grève depuis près de 2 mois. Autour d'eux, des centaines, voire des milliers de militants qui dormaient sur place et protégeaient l'accès à l'église depuis plusieurs semaines. Mobilisés depuis le 16 mars 1996 et l'occupation fortement symbolique de l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement, les immigrés sans titre de séjour font cette année-là une irruption retentissante dans le paysage politique. Si nous retenons cette date, c'est qu'elle peut apparaître comme symbolique des ce qu'on a appelé nouveaux mouvements sociaux qui se développent dans les années 90 autour des questions de logement, de l'antifascisme, des chômeurs, puis de l'altermondialisme et bien sûr de l'immigration. Mais aussi parce qu'elle incarne une certaine forme de solidarité dans les rapports Nord-Sud. Alors vous nous direz peut-être si cette mobilisation et celles qui vont l'accompagner dans les années suivantes inaugurent un nouveau cycle de lutte et un nouveau cycle de rapports aux questions politiques et aux politiques.
Il y a deux aspects intéressants dans la question. Le présent et l'avenir, mais en même temps aussi un retour sur le passé. Effectivement, elle a beaucoup marqué là aussi les mémoires, la lutte de Saint-Bernard, l'irruption policière, et mis la question des sans-papiers à la une de l'actualité comme un problème politique majeur, c'est-à-dire la fait sortir de l'ombre pour en faire un problème politique. Mais elle révèle aussi toute une histoire préalable des mouvements de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrée en France. Je parle de l'immigration économique, je ne parle pas des immigrations politiques comme l'immigration espagnole avant, mais celle qui a accompagné la croissance des années 50-60. À l'époque, on peut dire qu'il y a, on l'a trop oublié, ou du moins on ne le rappelle pas assez à mon gré, qu'il y a eu un mouvement de travailleurs immigrés sous différentes formes. Mais dans les années 60, d'abord, il y a toute une participation de la main-d'œuvre immigrée au mouvement ouvrier français, tout simplement syndical. Et puis, il y a des formes d'organisation spécifiques, comme l'Union des travailleurs sénégalais, qui a été animée par un ami à une époque qui s'appelait Sali Dongo, qui a publié un bouquin chez Maspero sur cette expérience-là. Si on regarde les années 60, il y a eu des mouvements comme le mouvement des travailleurs arabes, ou encore d'ailleurs sur la main-d'œuvre africaine, Gilles de Stahl, ancien militant de l'OCT, vient de publier un livre qui s'appelle Mamadou Madi, qui retrace cette histoire-là de désorganisation de main-d'œuvre immigrée au lendemain de 68 principalement. Parce qu'évidemment, 68 a donné un coup de fouet et on a eu, dans tout le début des années 70, des luttes de travailleurs immigrés, soit par les syndicats, les travailleurs sénégalais, c'était surtout chez les balayeurs et dans les entreprises de nettoyage ou dans le bâtiment, mais on a eu les luttes aussi sur les résidents dans les foyers Sénacotra. Donc il y a eu une activité forte au début des années 70. Et pourquoi rappeler ça? C'est pour insister sur la cassure, à mon avis dramatique, et le mot est peut-être faible, qui s'est produite justement dans les premières années du gouvernement Mitterrand, et je crois la date exacte doit être 83, sous le gouvernement Mauroy, quand André Mauroy, alors Premier ministre, ou encore Premier ministre, donc c'est au plus tard début 83, a parlé d'une grève des travailleurs de Citroën-Aulnay, comme une grève islamique. Et c'était la première fois que dans un discours gouvernemental, dans une parole d'État, finalement, on retirait à ces travailleurs leur identité sociale. On n'en parlait plus comme des travailleurs, mais on les présentait par leur religion ou par leur supposée appartenance confessionnelle. Je crois que ça, c'était criminel, parce que au moment où commençait à monter le chômage, et c'est ce contexte-là qui finalement, quand on y ajoute de la part des municipalités communistes, la fameuse histoire des bulldozers d'Ivry, etc., c'est qu'au moment où arrive la première onde de choc de la crise, du chômage, etc., au moment où il faut serrer les rangs de la solidarité ouvriers, nationaux, étrangers, etc., c'était ouvrir une brèche dans lequel s'est engouffré évidemment le discours de Le Pen et sur lequel il a fait son miel pendant des années par la suite. Alors finalement, si on resitue par rapport à ses antécédents la lutte de 96 et sa cristallisation autour de la lutte de Saint-Bernard et de l'occupation de l'église Saint-Bernard, elle marque une nouvelle inflexion, pas peut-être encore un renversement de tendance, mais quand même le début. C'est-à-dire que, je disais, au lieu de raser les murs, les travailleurs sans papier revendiquent leurs droits, suscitent un soutien dans la population, et on n'est pas au bout de nos peines, hein, puisque Le Pen va encore grossir électoralement jusqu'au moins 2002 et à sa présence au deuxième tour de la présidentielle. Mais on est déjà dans une modification du regard sur l'immigration et le sans-papier, qui n'est plus simplement un clandestin menaçant, etc. Le maillon suivant, il est venu très vite, c'est quand même la riposte là, très très large qu'il y a eu face aux lois Pasqua-Debré de février 97, où là, on a eu les grosses manifestations un peu avant les élections législatives. Et peut-être même ça a joué, d'ailleurs, dans la défaite de la droite à l'élection législative anticipée de 97. Bon, ça, c'est un changement important, et d'autant plus important que c'est la période où, parallèlement, on assiste à une montée du racisme et du discours raciste qui va culminer encore une fois avec les scores records de Le Pen en 2002. Et un racisme dont on constate, par exemple dans les études sociologiques, dans l'enquête faite par les sociologues Beau et Pialoux sur le bassin de Montbéliard, qu'il s'enracine dans l'insécurité sociale. Ils décrivent très bien le fait qu'on a souvent dit d'ailleurs qu'une partie de l'électorat Le Pen était passée sans transition du Parti communiste à Le Pen. On peut exagérer, mais le phénomène partiellement au moins a eu lieu. Et Beau et Pialoux montrent très bien sur le bassin de Montbéliard, c'est-à-dire tout autour d'Audincourt, etc., des usines Peugeot, que ce qui a cristallisé un discours raciste dans le monde ouvrier, non pas dans le monde politique, c'est pas par rapport, justement, beaucoup moins. Le racisme a toujours existé, sûrement à l'état latent, il s'est toujours manifesté plus ou moins ouvertement, mais il était différent, en tout cas, où il s'exprimait avec plus d'inhibition quand le travailleur étranger, arabe, malien, était le compagnon, le camarade de travail à Renault, à Peugeot ou ailleurs. Et ce qui a incarné, finalement, le fantasme et la peur de l'étranger, c'est beaucoup plus la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants d'immigrés à qui on avait promis par ailleurs une promotion sociale et notamment une promotion par l'école, et qui sortent de l'école à un moment de montée du chômage où ils sont doublement frustrés, c'est-à-dire ils sont exclus du monde du travail et en plus relativement diplômés, donc ayant finalement acquis un bagage culturel qui se trouve débouché sur rien. Bon, et c'est là-dessus, en tout cas sur la région, mais je crois que ça pourrait être élargi, que s'est cristallisé le phénomène. Alors, 96 Saint-Bernard comme point de départ d'un changement de regard sur l'immigration, dans un contexte plus général, et tu l'as rappelé, où ce sont les années tournantes finalement. Si on peut considérer les années 80 comme les années horribilis, le petit tournant est vérifiable et symbolisé sur le plan international en 94 par l'insurrection zapatiste de janvier 94 et par les grèves de 95 en France. Donc je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais avec la mobilisation sociale de l'hiver 95 en France, se crée incontestablement un nouveau climat. Un début de remobilisation sociale, une reprise de confiance qui est très probablement propice au fait que ces travailleurs sans papier se risquent à sortir de l'ombre et à poser leurs problèmes comme un problème politique, collectif, sur la place publique. Alors maintenant, de ce point de vue-là, disons, on peut considérer que la lutte de Saint-Bernard est doublement symbolique, c'est-à-dire, tu l'as dit, d'une nouvelle forme ou d'une nouvelle revendication de solidarité nord-sud au moment où est également en gestation le mouvement altermondialiste qui va surgir directement dans la foulée avec les manifestations de 99 à Seattle, et la renaissance des mouvements sociaux, mais qui vont se redéployer avec le mouvement des sans-papiers, les luttes des femmes qui ont eu lieu déjà d'ailleurs dans l'hiver 95, qui a été un prélude aux grèves de l'hiver 95, les luttes sur le logement, les mouvements écologistes sur les OGM. Donc on peut dire que le mouvement des sans-papiers qui acquiert à ce moment-là un visage, des porte-parole, hein, Boubacar, la camarade sénégalaise Madigène, etc. Donc c'est très important, c'est un mouvement qui a un visage, c'est-à-dire qui... C'est important d'avoir un visage humain, c'est plus cette espèce d'ombre inquiétante qui n'a pas de visage, mais qui redevient un acteur politique. Et ça, je crois que c'est symbolique d'un phénomène nouveau. Alors depuis, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, ça fait déjà 12 ans, Saint-Bernard, aujourd'hui, mais il faut dire que, non pas de manière linéaire et sans recul et régression, mais on a quand même regagné du terrain sur cette question-là, et notamment contre le racisme. Je ne veux pas revenir sur le bilan contradictoire, au demeurant, hein, de SOS Racisme, qui a eu ses bons côtés et d'autres plus discutables. C'est que, notamment dans les mouvements d'immigration aujourd'hui, beaucoup considèrent que l'apparition et la médiatisation avec l'appui du gouvernement de SOS Racisme, a pratiquement tué dans l'œuf la naissance d'un mouvement social issu de l'immigration au moment de la marche des beurs de 82-83. Bon, il y a une part de vrai là-dedans. Mais disons que depuis Saint-Bernard, il y a eu, avec beaucoup de difficultés et des coups d'arrêt, en reconquête du terrain. La grande déception, c'est que dans la foulée de Saint-Bernard, la gauche revenant au gouvernement en 1997 s'est présentée une opportunité de régularisation massive des sans-papiers qui en faisaient la demande. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et qui est très important, c'est que dans les luttes récentes, dans certaines d'entre elles au moins, ça ne résout pas le problème de tous les sans-papiers et de la régularisation, mais on a vu à la pointe des luttes récentes réapparaître la notion de travailleurs sans papier, y compris donc de travailleurs qui, depuis 10 ans, travaillent, paient des cotisations sociales, paient des impôts, touchent un salaire et en même temps sont toujours sans papier. Autrement dit, ceux-là ont reconquis leur nom de travailleurs, mais quand ils disent, notamment les travailleurs de la restauration qui ont été les premiers en mouvement là-dessus, quand ils montrent leurs papiers depuis 10 ans, ça veut dire que ce sont très exactement les déboutés de la régularisation de 97-98, quand il aurait été possible, justement, d'éliminer cette zone de l'endroit, ce qui était pas seulement un geste de générosité ou de solidarité, mais l'intérêt commun de travailleurs français et immigrés. C'est-à-dire éliminer le travail clandestin et la corvéabilité ou la vulnérabilité d'un travailleur sans papier. Recréer des solidarités, c'est de l'intérêt du sans-papier, évidemment, qui peut lutter ouvertement pour ses droits, mais c'est aussi l'intérêt du travailleur français que de ne pas subir, finalement, un dumping social d'une main-d'œuvre vulnérable et corvéable à merci. Bon, c'est encore une responsabilité de la gauche très lourde, parce que après l'effet Mauroy, ce que j'appelais tout à l'heure l'effet Mauroy, et la non-régularisation de 98, bon, c'est ce qui se retrouve aujourd'hui et qui très certainement a bénéficié au Front National. Ceci dit, je voudrais quand même ajouter que souvent on insiste sur le fond de racisme important en France. Et c'est vrai, il a ses raisons spécifiques, pas ses raisons justifiables, mais ses causes, disons, spécifiques, qui plonge ses racines dans l'inconscient colonial, dans la frustration des défaites françaises dans les guerres coloniales d'Algérie et d'Indochine, etc., et plus la peur sociale. Mais je dirais qu'en même temps, il y a des ressources importantes et des contre-feux importants face à ces tendances racistes dans la société française. Ce qui s'est manifesté ces dernières années à travers le réseau Éducation sans frontières, sa présence assez massive dans le monde scolaire et universitaire, etc., montre qu'il y a en même temps un attachement à des principes de base élémentaires universalistes, le bon côté de l'universalisme, il y a le mauvais qu'on critique, mais il y a aussi le bon côté de l'héritage, qui est important en France. Je ne veux pas dire, on ne sait pas comment ça va se passer, mais que ces ressources-là, qui font d'ailleurs que par rapport à ceux qui, en 2002, vous vous en rappelez, après le premier tour de l'élection présidentielle, s'alarmaient quasiment de la possibilité d'une imminente marche sur Rome de Le Pen, d'un espèce de scénario mussolinien, etc., ce qui était quand même au moins déraisonnable. L'alerte était à prendre au sérieux, mais on n'était pas dans une situation de pré-coup d'État fasciste. Bon, mais enfin, la peur a quand même servi a été le ressort d'un vote Chirac, c'est-à-dire de faire voter 80% de la population pour l'escroc et le menteur. Bon. Mais qui aurait imaginé à l'époque qu'en moins de 5 ans, finalement, bon, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de la gauche critique ou radicale, appelons-la comme on veut, a pratiquement rétabli l'équilibre par rapport au recul du Front National. On peut dire que, bien sûr, c'est aussi parce que Sarkozy et Hortefeux ont recyclé les thèmes du Front National dans la politique gouvernementale qu'il n'a plus trop de raison d'être. Mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que c'est aussi le fait que la détresse sociale a trouvé d'autres canaux d'expression, d'autres formes d'expression, que des gens qui auraient pu basculer de ce côté-là par désespoir peuvent trouver un autre moyen d'exprimer leur colère et leur révolte. Donc ça, c'est important. Et je crois malheureusement que le phénomène n'est pas épuisé, hein, avec la crise économique actuelle qui vient, et qu'elle peut prendre, paradoxalement, dans des pays voisins. On l'a vu avec c'est encore pire, d'une certaine manière, que ce qu'on a connu, hein, même si ce qu'on a connu est grave. La gauche italienne s'associant ou prenant l'initiative de la campagne d'expulsion des Roms, qui sont en plus des citoyens européens, hein, du point de vue légal. Je crois que des sociétés comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont finalement moins habituées au mélange culturel, risquent d'être plus violentes dans leurs réactions par rapport à leurs immigrés. Ce qui s'est traduit en Espagne, notamment dans le sud, sur la question de l'immigration marocaine, ou par rapport aux latino-américains andins, péruviens, boliviens ou dominicains. Voilà, donc le problème, en tout cas, maintenant, est un problème pas seulement français, mais est réellement un problème européen, notamment avec la mobilisation, ça c'est l'actualité immédiate, contre l'infâme circulaire retour qui installe, en fait, des camps de rétention. Je veux pas, il faut se méfier un peu des analogies historiques, mais enfin, qui rappellent de beaucoup les camps de rétention pour réfugiés d'Europe de l'Est ou réfugiés juifs dans le sud de la France, à la veille de la... On n'est pas à la veille d'une guerre mondiale, du moins on peut l'espérer, encore que, d'une certaine manière, sous une autre forme, on y est. Mais voilà, donc, on est dans cette configuration-là. Et finalement, l'expérience accumulée par toutes ces luttes de l'immigration en France est peut-être un atout pour être, pas seul, mais un des moteurs de la construction d'un mouvement européen sur la question de l'immigration.